Et on va parler d'un livre, le cinquième livre de Nathalie Marquet, Un signe de toi, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Bah écoutez, on fait aller, hein. J'ai la chance d'être entourée de mes deux enfants, donc ça va, et contente d'être là.
Ouais, dans le Nord, dans toute la France, puisque Jean-Pierre, encore maintenant, bien sûr, c'est dingue cette force qu'a Jean-Pierre, parti depuis combien de temps?
Deux ans, 2022, le 2 mars.
De mars 2022, et sa présence, elle est partout. Même encore maintenant, je voyais des reportages, on parle de région, on reparle quand même de Jean-Pierre. C'est clair, il aura marqué et il marque à vie pour plein de gens. C'est quelqu'un qui est hyper important pour toi, pour tout le monde, pour la vie des gens. Ça a été compliqué de le partager comme ça, dans la vie, quand il était encore là, parce que les gens étaient proches de lui, comme si c'était un frère.
La famille, oui, oui. Jean-Pierre, de toute façon, il représentait un oncle, le copain, l'amant, le professeur de français aussi, hein, parce que j'ai reçu des lettres où des étrangers m'ont dit j'ai appris le français grâce à Jean-Pierre en regardant le Trésor. Non, le partager, non, c'est très mignon, parce que c'était quelque chose de sain et beau à voir, et l'amour qu'on donnait à Jean-Pierre donnait aussi tout l'amour qu'il pouvait à son public. De toute façon, j'ai toujours dit à Jean-Pierre, sa deuxième femme, c'était la télé. Donc, voilà. Non, moi, je trouve que c'est admirable, c'est magnifique d'avoir cette passion, parce que c'était vraiment une passion. C'était pas de passer à la télé, ça, il s'en foutait complètement. Mais il aimait le journalisme, il aimait les gens, il aimait la France, il aimait les terroirs, il aimait. Voilà, il était vrai, c'était quelqu'un de vrai. Donc, non, c'est normal que je le partage.
Quel a été le déclic pour faire ce livre, Un signe de toi? Est-ce que c'est un déclic qui vient de lui?
Alors, avec Jean-Pierre, déjà, on en avait parlé à l'hôpital. C'est lui qui m'en a parlé. Il m'a dit, ouais, tu pourras faire un second livre. Je dis, mais... Parce qu'il avait lu mon précédent. Moi, j'y crois. Et j'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, bah, parce que tu vois, là, je suis guérie de mes cancers. Je suis à l'hôpital et on ne sait pas ce que j'ai. Donc je dis, bah oui, c'est vrai, si jamais tu devais partir, au moins moi, mais on le faisait à la rigolade, hein. Je dis, au moins moi, je saurais de quoi t'es parti. Et je dis, bah alors justement, dans ces cas-là, chérie, si jamais tu pars avant moi, n'oublie pas, il faudra que tu me fasses des signes. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse comme signe? Il me fait, parce que chaque fois, ça le blasait quand je lui parlais de ça. Je dis, bah tu sais très bien, il me fait, pourtant il avait adoré mon précédent livre, et il était toujours stupéfait de mes rêves prémonitoires, de tout ce qui se passait, de toutes les preuves que j'ai pu lui donner de l'au-delà, mais il avait du mal à l'admettre. Mais là, quand même, il rentrait un peu de plus dans le jeu, et j'ai dit, bah écoute, il faudrait que tu me montres des signes. Il fait, bon d'accord, mais comment veux-tu que je fasse? J'ai dit, mais t'inquiète pas, au moment où ton âme partira, tu vas trouver la voie tout seul, et j'espère que tu seras là, parce que si jamais ça m'arrive à moi, je viendrai chatouiller tes doigts de pied. Et là, il me dit, ah non, pas les doigts de pied, je suis trop chatouilleux. Je dis, bah justement, tu sauras que c'est moi. Donc j'ai dit, bah écoute, oui, ça serait, et puis surtout par rapport pour parler des cancers et tout ça. Donc voilà, donc c'est venu déjà de l'hôpital.
Donc c'est venu de l'hôpital. Les premiers signes, c'est la tour Eiffel par exemple, qui est toujours éteinte, allumée. Il y a plein de signes comme ça. Mais comment on arrive à distinguer que c'est les bons signes ou pas?
C'est très simple. Là, au début, quand c'était en sortant de l'hôpital, excusez-moi de vous dire, mais je prends ma voiture au sous-sol au moins 2 ou moins 3, je ne sais plus là. On capte pas avec la voiture, la radio, elle s'éteint. Et je monte dans ma voiture avec ma meilleure amie qui m'avait accompagnée, et là, ça s'allume sur Johnny Hallyday, Allumer le feu, sa chanson préférée. C'est pas ma chanson préférée à moi, mais à lui. C'est quand même dingue. Je veux garer après la voiture. Il faudra lire le livre, parce que si je vous dis tout le truc, ça sera un peu long.
Ouais, non, on raconte deux, trois petites choses. Il y a l'odeur aussi dans la voiture, malgré la revente de la voiture.
Alors, oui, voilà. Ah oui, j'avais déjà parlé de la vente de la voiture.
Non, c'est ailleurs.
Ah oui, c'est ailleurs, parce que je me suis dit, c'est bizarre. Voilà. Non, oui, c'est quand même surprenant, parce que la voiture, c'était Jean-Pierre qui me l'avait achetée pour un Noël et tout, un très beau cadeau. Et là, donc, j'avais de temps en temps son odeur dans la voiture. Et j'avais envie de la vendre, parce qu'elle commençait à se faire vieille, la voiture, mais en même temps, ça me faisait très, très mal au cœur. Parce que je dis, mince, c'est un cadeau de Jean-Pierre, j'ai pas envie de la donner, c'est pas bien et tout. Au moins, j'avais son odeur. Et puis après, je me dis que là-haut, ils sont pas matériels, il faut pas être matériel sur Terre. C'est c'était un très mauvais défaut, c'est pas bien du tout. Donc j'ai dit bon allez hop, je la vends et je me suis racheté une autre voiture et là incroyable, il y a de nouveau l'odeur de son parfum et que je n'ai plus d'odorat moi depuis que j'ai mes 48 ans, rien à voir avec le Covid, je n'ai plus d'odorat et son odeur je le sens. Donc c'est formidable, donc j'étais contente.
Est-ce que quelqu'un qui doit lire ce livre doit y croire, doit croire au signe, ou alors est-ce qu'on a besoin, ou est-ce qu'on peut croire au signe après avoir lu ton livre?
Y a beaucoup de gens qui ont lu mon livre par curiosité et qui me disent ah non mais c'est quand même incroyable, maintenant j'y crois. J'ai donné beaucoup d'espoir aussi grâce à ce livre à des gens qui sont dans un deuil très profond par rapport à des enfants et ça c'est extrêmement compliqué et donc ça leur a redonné le sourire. Moi j'y croyais avant la mort de Jean-Pierre bien sûr, hein, c'est depuis mes 21 ans que je suis là-dedans, donc j'ai pas écrit un livre pour me faire de l'argent sur le dos de Jean-Pierre comme on pourrait des fois dire.
Oui, c'est ce que, malheureusement c'est ce qu'on dit, voilà, c'est toujours comme ça.
Mais comme j'ai écrit déjà le livre précédent, le précédent que Jean-Pierre l'a lu, on parlait déjà de ça, j'ai toujours été connue ou j'étais là-dessus, portée là-dessus et moi j'ai donné des choses concrètes à Jean-Pierre, lui qui n'y croyait pas, sur mes rêves prémonitoires de ce qui arrivait. Et maintenant les scientifiques y croient de plus en plus aussi, maintenant ils font beaucoup d'expériences parce qu'avec la mort imminente, des gens qui y meurent et pendant quelques temps ils racontent tous ce long couloir, la vie qui défile, qui voit à 360 degrés, qui voit sa femme, alors qu'il est toujours allongé sur la table d'opération, et qui voit sa femme chez lui à la maison en train de préparer le sac pour venir les rejoindre, et qu'il est mort cliniquement, et d'un seul coup il revient, il explique tout ça. Et c'est dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc les gens, pourquoi iraient raconter ces choses-là? Il n'y a aucun intérêt, que ce soit aux États-Unis, en Hollande, enfin n'importe où. Et donc là, les scientifiques maintenant s'intéressent et essayent de faire des trucs scientifiques aussi en mettant j'ai entendu dire des enveloppes dans chaque coin, dans une salle d'opération, pour essayer de voir si jamais il y a une mort imminente, si ils pouvaient ouvrir les enveloppes. Donc ils sont sur ce stade-là.
En lisant le livre, si on a peut-être la même chose, les mêmes rêves prémonitoires, est-ce que ça permet aussi de vivre différemment, parce que c'est compliqué quand même de vivre avec ça et puis de se dire que des fois on a raison ou chercher de savoir, voilà.
Mes rêves prémonitoires, j'ai toujours raison sur mes rêves prémonitoires, donc moi je dis que c'est un...
Donc ça peut aider en fait...
Au début c'est violent, au début il faut s'habituer, mais on ne s'habitue jamais à ces choses-là, mais on se dit c'est un don du ciel de là-haut pour nous protéger, pour protéger les siens et pour le vivre au mieux, parce que de toute façon on ne doit pas l'éviter et puis ben voilà, c'est comme ça, mais c'est compliqué. Bon, maintenant j'ai habitude, malheureusement, mais ça me prévient et ça prévient pour les autres, quoi.
Merci beaucoup. Si vous voulez découvrir le livre qui s'appelle Un signe de toi, qui va vous expliquer pas mal de choses, peut-être aussi comprendre ce que vous ressentez et peut-être essayer de comprendre aussi ces signes et de voir un petit peu. C'est n'importe quel endroit en fait, parce que tu parles beaucoup de quand tu dors et tout ça, mais ça peut être autrement.
Ça peut être partout, ça peut être dans l'eau, ça peut être en marchant dans la forêt. Alors bien sûr, quand vous voyez une plume, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que c'est lui qui vous l'a envoyé. Il faut lui poser une question avant et penser à lui. Et là, quand vous vous posez une question et pensez à lui bizarrement, vous avez soit une pièce de monnaie, soit une plume. Ça, c'est sûr que vous avez la réponse de votre ange gardien qui est de là-haut avec lui, de son âme.
Merci beaucoup, Nathalie.
Mais de rien, merci.